en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La loi Liberté et responsabilité des universités, LRU en initiale, permettra-t-elle l'émergence d'un nouveau modèle d'université en France ? Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication prononcée par Yves Lichtenberger devant l'Académie des sciences morales et politiques lors de la séance du lundi 6 avril 2009. Yves Lichtenberger est le président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur Université Paris-Est. Cette communication s'inscrit dans le thème de réflexion de l'année 2009 proposé aux membres de cette académie par le président Jean-Claude Casanova.
Lorsque vous m'avez sollicité en septembre pour venir traiter devant vous de ce sujet, nous étions à peu près sûrs que ce serait un sujet d'actualité, mais pas d'actualité brûlante. Voilà. Et donc je me réjouis particulièrement que ça tombe dans un pareil moment et d'avoir la possibilité d'une discussion sereine avec d'aussi éminentes personnes et collègues. Je vous en parlerai à la fois en praticien. J'ai présidé une université, celle de Marne-la-Vallée, pendant 5 ans. Je suis aujourd'hui président d'un PRESS. Je vous en parlerai aussi en sociologue, puisque je suis professeur de sociologie dans cette université. Je vous en parlerai avec d'autant plus d'intérêt que je préside aujourd'hui un PRESS, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, qui est exactement un des établissements emblématiques des transformations à l'œuvre aujourd'hui dans le paysage des universités et de l'enseignement supérieur. Notre presse, Université Paris-Est, nous lui avons donné ce nom d'université au singulier pour marquer cette volonté de reconstruire un modèle universitaire. Il est, on pourrait dire, un espace de coopération construit entre plusieurs établissements ou d'autres disent une filiale de deux universités, celle de Marne-la-Vallée et celle de Paris 12 Val-de-Marne, qu'on appelle souvent l'université de Créteil. Il regroupe également des écoles, l'École nationale des ponts et chaussées, qui avait la possibilité de délivrer le doctorat. Et puis d'autres écoles, Lessier, école d'électronique de la Chambre de commerce, une école d'architecture, une école de géographie. Et j'espère, à la fin de ce mois, l'école Veto qui se trouve à Maison-Alfort. Donc aujourd'hui sont regroupés, associés dans ce PRESS, la totalité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'Est francilien, d'où son nom Université Paris-Est. Construction qui a été possible parce que l'ensemble des établissements, en particulier les universités, partageaient une culture commune de la professionnalisation. Marne-la-Vallée est par exemple une université qui a une forte densité de formation professionnelle, mais qui sur 12 000 étudiants a 2 000 apprentis, c'est-à-dire 2 000 étudiants sous contrat de travail avec une entreprise, passant la moitié de leur temps en liaison avec une entreprise, etc. Ce qui a facilité la culture avec les entreprises, etc. La deuxième raison, c'était la volonté de chacun, y compris parmi les plus prestigieux comme l'École des Ponts, de pouvoir accéder à une attractivité internationale suffisante qui fasse qu'on puisse non seulement attirer des chercheurs et des enseignants, mais surtout des étudiants et des doctorants. Aujourd'hui, une de nos grandes difficultés est d'avoir des doctorants de qualité, en particulier en sciences, et donc nous allons les chercher dans le monde entier. Ces doctorants sont la moitié des forces de recherche de nos laboratoires. Et donc a été confiée à l'Université Paris-Est la responsabilité de former, délivrer le doctorat. Le doctorat est délivré par l'Université Paris-Est, qui est d'une certaine manière une très grande école doctorale avec 1300 doctorants à l'heure actuelle. Et puis, le PRESS, c'est à la fois un établissement avec ses responsabilités propres, je viens d'en évoquer quelques-unes, c'est aussi un espace de coopération qui se construit progressivement. Donc c'est à partir de la réussite de ce mouvement-là, des difficultés qu'on a pu rencontrer dans la densification des relations entre universités, entre disciplines très différentes. Créteil est plus marqué par le droit et la médecine que ne l'est Marne-la-Vallée, qui est plus marqué par les sciences de l'ingénieur. Difficultés de culture entre universités et organismes et écoles, que c'est tisser mon regard sur cette évolution des universités. Il est tentant, en commençant, Jean-Claude Casanova, vous avez rappelé un peu cette longue histoire des universités, il est tentant de commencer un peu par une provocation en disant que la France, depuis deux siècles, n'a pas eu d'université. N'a pas eu d'université au sens où on l'entend étymologiquement. Étymologiquement, université ne veut pas dire le rayonnement universel des savoirs, il veut dire la concentration dans un lieu local, dans une détermination locale, les universités, Bologne la première, mais aussi la Sorbonne, etc., avec cette caractéristique d'être localisée, et donc le regroupement dans un lieu donné de l'ensemble de l'universalité, c'est là où vient le mot université, de l'universalité des savoirs, et donc l'ensemble des facultés du droit, de la médecine, de la théologie, des sciences, etc. Et donc université désigne une communauté de pairs, d'étudiants également au Moyen Âge, de toutes les disciplines, des savants enseignants regroupés en un même lieu, organisés de façon autonome et assumant en commun une même mission, la mise à jour et la transmission de leur savoir. Dans notre histoire, s'est constamment manifestée une méfiance constante du pouvoir central à l'égard de telles communautés savantes ancrées dans leur territoire et ayant cette légitimité de parler au nom de l'universalité des savoirs constitués. Donc la Révolution française a dissous purement et simplement les universités au même titre que toutes les corporations. Napoléon a recréé l'université française, qui était en fait un ministère de l'éducation nationale. La Troisième et la Quatrième République, il y a eu un petit épisode que vous évoquiez à la fin du 19e, qui rétablirent en fait les facultés, et même les universités n'étaient qu'un conseil des doyens des facultés. Mais le pouvoir a toujours été redonné aux facultés. Les universités ont été recréées après le choc de 68 et encore tout à fait du bout des lèvres en veillant à ce que localement elles restent séparées. Il n'y a que Nantes qui a gardé une université unique et donc on a ce paysage français dans lequel on a Lyon 1, 2, 3, Bordeaux ça va jusqu'à 4, Paris ça va jusqu'à 13. Les quatre dernières universités nouvelles n'ayant pas décroché de numéro, à peu près selon la partition une université de sciences, avec souvent la médecine, et puis le reste, les sciences humaines et sociales de droite d'un côté, les sciences humaines et sociales de gauche de l'autre. Donc le droit était en général d'un côté, l'économie se retrouvait en concurrence dans deux universités locales, etc., etc. Répartition qui n'a pas beaucoup de soubassement ni pédagogique ni scientifique. Il n'y a que ces questions de répartition du pouvoir, de lien entre un pouvoir central et des savoirs locaux qui permettent de comprendre un peu le dessin de ce paysage-là. Nous sommes donc, et c'est un premier malentendu qu'il faut lever, tout à fait habitués à appeler université ce que partout ailleurs dans le monde, on désignerait plutôt sous le nom de faculté. Quand on parle de Paris 6, de Lyon 1, des grandes universités, ce sont en fait des grandes facultés de sciences. Quand on parle de Paris 4, qu'on parle de Toulouse 2, ce sont en fait des grandes facultés d'économie. Point d'université là-dedans. Cet aspect, cette prégnance du modèle facultaire est encore renforcée par le fait qu'à l'intérieur des universités, jusqu'à récemment, c'est les facultés qui avaient une autonomie à peu près complète, mais elles ne s'occupaient, même si elles s'appelaient UFR, Unité de Formation et de Recherche, que de la formation. Et quant à la recherche, jusqu'à récemment, là aussi, le pilotage de la recherche dans les universités était complètement assuré de l'extérieur et de façon nationale, soit par le ministère, soit par les organismes de recherche, qui désignaient jusqu'à des choses très pointues, telle équipe ou tel professeur aurait des moyens, tel autre n'en aurait pas, et ça se décidait complètement en fonction des réseaux d'influence nationaux et pas du tout en fonction de pouvoirs locaux. Cette méfiance à l'égard des universités, on la retrouve aussi dans cette caractéristique de fond du paysage français, cette segmentation entre les universités d'une part, les écoles et les grandes écoles d'autre part, et puis les organismes de recherche pour une troisième part, qui est née de la nécessité de développer des organisations spécialisées là où les facultés ne manifestaient pas d'intérêt ou ne s'avéraient pas capables d'assumer de nouvelles missions. Ceci donc depuis la naissance de l'École des Ponts pour remplir des besoins techniques très, très précis ou la création du CNRS créée comme agence de moyens pour les universités rapidement devenue un rival des universités. Pour autant, nos universités, même avec cette organisation facultaire, ne sont pas restées statiques. Elles ont connu et on peut même dire conduit depuis une quarantaine d'années de très profondes transformations. Et de façon assez surprenante, depuis 68, on peut dire sans heurte majeur, là où on pouvait en attendre, dans les années 80 et 90, les universités ont quadruplé leur nombre d'étudiants, c'est-à-dire aussi considérablement accru la diversité des publics auxquels elles s'adressaient, et ceci avec des moyens à peine accrus, c'est-à-dire en tout cas avec des moyens tout à fait décroissants proportionnellement au nombre d'étudiants accueillies. Elles ont réussi dans les années 2000 à s'inscrire dans l'espace européen de la formation, à conduire cette transformation de leur offre de formation autour de la licence, du master et du doctorat. Mais il faut bien constater que ceci a pu se faire sans heurte, car dans la plupart des cas, ces nouvelles formations, ces nouvelles missions, celles d'insertion des étudiants, d'excellence en recherche, etc., se sont développées en complément, comme à côté, et pas en concurrence avec ce qui existait. S'en heurte donc, grâce à l'ignorance réciproque des collègues d'une discipline à l'autre, grâce au cloisonnement qui pouvait exister en interne, s'en heurte, mais non sans accumulation de tensions devant l'importance des transformations en cours et la profondeur des transformations identitaires qu'elles accompagnaient. Et sans doute faut-il voir là une des raisons profondes des mouvements en cours, de ce caractère qu'on ressent tous comme profondément défensif et malheureux, ce sentiment qu'est en train de se jouer le va-tout d'un certain nombre de disciplines, etc. Il me semble important, quand on regarde cette évolution sur la longue durée, de dire qu'on ne craigne ou qu'on ne le craigne pas, une page est en train de se tourner. Cette page d'une organisation en faculté, celle d'un repli sur elle-même des disciplines, plus marquée dans les humanités que dans les sciences. Plus marqué, c'est un point qui m'a frappé récemment, de voir que dans mon université à Marne-la-Vallée, mais c'est vrai aussi à Toulouse 2, le Mirail, quand il n'y a qu'une université en France en grève, c'est Toulouse 2, le Mirail, les historiens sont pleinement dans le mouvement, les lettres sont pleinement dans le mouvement, les sociologues continuent à faire leurs cours comme si peu était, alors qu'on avait quand même l'habitude de s'attendre à des mouvements tout à fait différents. Donc une page est en train de se tourner, et je me rappelle une bande dessinée de 68 qui disait « ça n'est pas forcément triste ». Une page est aussi en train de s'ouvrir, celle qui permet aux universités d'affirmer leur rôle dans le développement économique, celle d'une reconstitution peut-être, d'une responsabilité locale collégiale. Je ferai volontiers le pari qu'une fois remise à l'ouvrage, les cheminements de chacun pourront à nouveau converger et que la fin des facultés n'est pas forcément ni la fin du monde, ni même encore moins la fin des universités. que la confrontation à des attentes d'insertion professionnelle des étudiants, que la coopération avec des entreprises et des collectivités territoriales ne sont pas des dévoiements du savoir académique, elles en sont même souvent la nécessaire mise en valeur. Donc aujourd'hui, le système français d'enseignement supérieur et de recherche, je crois que c'est le fruit d'un long débat social, a atteint un double point de non-retour, fin du modèle facultaire, fin de la coupure entre enseignement, recherche et professionnalisation, fin de la coupure entre université, école et organisme, et elle a atteint ce point de non-retour parce que s'est établi progressivement dans l'ensemble du pays la conscience de ce que ce modèle ne pouvait plus satisfaire. La nécessité d'une élévation massive de qualification, et pas seulement de formation d'une élite, la nécessité surtout de la transmission d'une culture d'innovation à tous les niveaux, dès le premier cycle universitaire, qui nécessite de garder lié très fortement et de ne pas séparer l'enseignement de la recherche. Et c'est ce qui a conduit à donner un rôle pivot au modèle universitaire. Quand on regarde un peu la façon dont ce débat s'est déroulé, on peut en remarquer quatre étapes importantes. Deux étapes qui ont été des étapes préparatoires de redéfinition du cadre et puis deux lois spécifiques qui ont redéfini l'organisation interne. Deux époques, deux étapes amont, 2001, une loi qui n'est pas spécifique à l'enseignement supérieur et la recherche, mais qui a une grande influence, c'est la LOLF, la loi d'organisation des finances publiques, qui, en gros, amène, en accord avec l'ensemble de l'Europe, à passer d'un modèle où l'on passait une demi-heure à discuter à l'Assemblée nationale de la reconduction des services votés et où l'on débattait pendant trois mois des mesures nouvelles, sachant que les services votés représentaient 93% du budget et les mesures nouvelles 7%. Et donc, transformation de ce modèle-là pour demander à chaque ministère, considéré comme un opérateur de politique publique, de justifier dès le premier euro les programmes sur lesquels il mettait les moyens, y compris les moyens qu'il avait de façon récurrente d'année en année. Et donc, c'est un changement de vue sur l'action publique en le regardant du point de vue de ses finalités, du point de vue de l'atteinte de résultats, du point de vue de l'évaluation de la réussite, et pas simplement du point de vue de la conformité réglementaire. Un moment qui a amené dans les universités à introduire une culture de l'évaluation, à introduire une culture de la contractualisation de la fixation d'objectifs. C'est donc une toile de fond importante dans le changement de culture. Deuxième étape amont, entre 2002 et 2005, l'instauration du LMD et ça, phénomène très significatif. Le fait qu'il ne s'agit pas d'une loi, ce n'est pas la loi modernisation et je ne sais pas quoi, c'est la réorganisation des formations en trois niveaux, licence, master, doctorat, guidée par la volonté de construire un espace de mobilité au parcours des étudiants qui a amené, dans un premier temps, à s'interroger sur les équivalences. Comment est-ce que un étudiant français qui avait à peu près un diplôme par an entre le DEUG, la licence, le DEA, le DESS, la maîtrise, le DEA, le DESS, etc., et l'étudiant italien qui avait le bac et ensuite le diplôme d'après était à bac plus 5, comment est-ce que l'on recevait l'un l'autre, comment est-ce qu'on les insérait dans des parcours? On a commencé en réfléchissant en termes de durée de formation, c'est-à-dire de remplissage de savoir. C'est à ce moment-là qu'on a fixé un niveau 2, c'était notre DEUG, un niveau 4, maîtrise. On a créé les IUP, Instituts Universitaires Professionnalisés, à ce moment-là. Et ce modèle n'a pas tenu le choc à l'épreuve du marché du travail et des recrutements. Et on a vu que partout, ce qui gardait de la valeur était la licence et non pas le DEA. Ce qui gardait de la valeur, c'était le DEA et le DESS et non pas la maîtrise. Et donc, a amené à réfléchir autrement du point de vue des finalités, c'est-à-dire à s'interroger sur à quoi ces diplômes servent et donc quelles compétences est-ce que l'on peut acquérir, et c'est-à-dire quel type de responsabilité et quel niveau de responsabilité on est capable d'exercer dans une organisation, dans une administration ou dans une entreprise. Ce qui est très frappant, c'est qu'un changement de culture de cette ampleur raisonnant les finalités mêmes de l'enseignement, pas à partir de la quantité de savoir acquis, mais des compétences acquises, mettant en équivalence l'obtention par le diplôme et les examens et l'obtention par la validation des acquis de l'expérience, y compris aujourd'hui au doctorat, dont tout le monde pensait que ça mettrait une vingtaine d'années à se réaliser, s'est réalisé dans toutes les universités en 3 ans. Ceci parce que chacune, au lieu de raisonner sur un modèle en disant on va faire un modèle, ensuite on l'appliquera, s'est rapidement mis au pied du mur, tant était légitime l'exigence qui leur était portée de s'intéresser à l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Ça a donc été un moment de réinsertion des universités dans le débat social, un moment d'acquisition pour les enseignants aussi, eux-mêmes, d'une fierté qui était souvent perdue dans l'enseignement secondaire par rapport à une mission dans le développement économique, dans l'insertion professionnelle. Et c'est donc sur ce fond-là que sont venues se greffer les deux lois. La loi recherche en 2006, qui s'est appelée Pacte recherche, puis ensuite il a été codifié à l'intérieur du Code de l'éducation, qui a été à l'origine de la création des PRES, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, mais aussi de l'ARES, de l'agence d'évaluation, de l'ANR, de l'agence qui distribue les crédits de recherche, de la création des EPCS, établissements publics de coopération scientifique, des RTRA, réseaux thématiques de recherche, des fondations universitaires et partenariales, des instituts Carnot, enfin tout un outillage institutionnel très, très puissant. Qu'il faut comprendre en comprenant la logique de fond qui l'a guidé. La logique de fond, c'est d'essayer de passer de ce qu'était le paysage antérieur, une spécialisation des établissements en tuyaux, où le CNRS se définissait lui-même ses objectifs, son allocation de moyens et était en même temps opérateur, à une logique en strate horizontale distinguant ses niveaux de responsabilité au ministère donc et au conseil, y compris le co-NRS, non pas le centre national mais le comité national, ce qu'est l'orientation et la fixation des grands objectifs thématiques ou scientifiques. Aux agences ensuite, et les organismes de recherche sont de plus en plus poussés à jouer ce rôle d'agence, le rôle de la programmation et de l'allocation des moyens, et puis aux opérateurs, essentiellement les universités et les organismes de recherche dans leur champ spécifique, de produire les connaissances, de les diffuser, de les valoriser. Cette distinction des niveaux de responsabilité, qui est donc une profonde réorganisation du paysage, l'orientation, la programmation, la mise en œuvre opérationnelle, va se retrouver à partir de la loi LRU reproduite à chaque niveau. C'est-à-dire que vous trouverez dans une université le fait qu'autour du conseil et du président se constitue une instance de pilotage stratégique, que se constituent en interne des éléments d'analyse des activités et d'allocation des ressources, et donc de contractualisation avec les composantes, et puis les composantes chargées de la mise en œuvre. Puis à l'intérieur des composantes, vous trouverez là, pareil, une réflexion stratégique, une analyse des fonctionnements et une contractualisation qui aille jusqu'à la définition du service des enseignants et des chercheurs dans les labos ou dans les formations. Et donc, en 2007, la LRU vient compléter ce paysage. Avec courage, la ministre complète la dernière pièce du puzzle qui manquait en débloquant cette initiative stratégique des universités, en reconfigurant l'exécutif avec un conseil et un président élu sur un projet, alors qu'avant, le président d'université était essentiellement celui qui était garant de la paix des ménages. Il devient garant de la capacité de son université à évoluer pour s'attirer des ressources, c'est-à-dire avoir une stratégie. Est accordé aussi aux universités un budget global, la responsabilité donc de choisir entre du fonctionnement et de l'investissement, entre de l'enseignement et de la recherche, etc. Est accordé aux universités la responsabilité des recrutements qui étaient décidés en interne aux disciplines antérieurement et qui là devient organisé à partir de comités de recrutement qui ne sont pas forcément constitués de la même manière, selon qu'il s'agit simplement de renouveler un enseignement dans la même discipline. Et là, on a le même fonctionnement que les commissions de spécialité antérieures, ou qu'il s'agisse de faire une inflexion thématique, et alors on marie plusieurs disciplines, ou qu'il s'agisse de constituer un search committee pour aller chercher une personnalité ayant un rayonnement déjà acquis au plan international, et donc on constitue des comités de façon différente. Donc voilà comment cette construction institutionnelle progressive dessinant un nouveau modèle avec ses trois caractéristiques fortes: le fait de relier l'enseignement et la recherche, élément indispensable dans une économie de l'innovation, la nécessité de reconstituer des ensembles omnidisciplinaires, c'est-à-dire comportant à la fois des sciences et de l'ingénierie, des sciences humaines et sociales et des sciences de la vie, et donc permettant à l'établissement d'évoluer à partir des demandes thématiques qui lui sont formulées, et elles sont en général formulées plus de façon thématique que disciplinaire, c'est à construire par les organismes de recherche. Et puis, troisième caractéristique forte, c'est cet ancrage territorial. Si on veut faire tenir ensemble des missions qui ne s'accordent pas spontanément, comme l'enseignement et la recherche, ou pas toujours, et pas à tous les moments, faire tenir ensemble des disciplines aussi différentes, alors il faut quand même un point commun. Et donc, l'ancrage territorial, il est indiqué à la fois comme une contribution à son territoire. Là, les universités californiennes s'enorgueillissant d'être le moteur du développement économique de leur région. Mais il faut le voir aussi comme caractérisant le périmètre d'une collectivité scientifique qui assume ensemble des missions communes. Ces éléments ont été finalement construits progressivement, mais progressivement acceptés, tant était manifeste ce besoin massif qui existait de diffusion d'une culture d'innovation, tant était manifeste aussi le fait que les universités, au travers du LMD notamment, s'étaient révélées comme étant un des lieux les plus actifs de modernisation de la fonction publique ces dernières années, et qu'elles étaient donc un acteur fiable, contrairement à ce que la tradition laissait souvent entendre. Et j'allais dire, sentiment plus fortement partagé dans l'ensemble des villes de province que dans Paris intramuros. On voit dans les opérations campus récemment sur les 12 campus qui ont été retenus, 9 sont en province et 9 sont appuyés extrêmement fortement, que ce soit Lyon, que ce soit Strasbourg, que ce soit Nancy, que ce soit Montpellier, que ce soit Aix, que ce soit Bordeaux, etc., appuyés très fortement par leur collectivité territoriale, par leur région, qui sont aujourd'hui des financeurs en investissement presque à la hauteur de l'État, même s'ils n'ont pas de compétences officielles en la matière. Et puis, ont joué de façon décisive aussi les comparaisons internationales, l'aiguillon de Shanghai que tout le monde a ressenti avec cruauté, et qui montrait à la fois l'importance d'une taille critique, pour permettre une attractivité suffisante, pour permettre qu'on n'ait pas seulement de la bonne recherche quand, à Marne-la-Vallée, on arrive à attirer une professeure, Chantal, qui développe quelque chose, mais dont on ne sait pas ce que ça durera au-delà des collègues qui sont venus, ou que l'on voit partir vers Paris-Centre, ou vers des universités plus prestigieuses, ou vers l'étranger à un moment donné. Donc, cette taille critique, elle est la condition question d'un renouvellement dans la même localité. Ce qui ne veut pas dire un enfermement dans le localisme, parce que ça se produit par des échanges entre grands territoires. Et puis, l'importance du territoire. Toutes les universités au monde ne s'appellent pas d'un nom ou d'un numéro, elles s'appellent du nom de la ville ou de la région dans laquelle elles exercent. Et donc, cette nécessité d'une durée des institutions garante d'une capacité à se renouveler et qui venait heurter, a été dans un premier temps mis en opposition avec ce qui semblait être le cœur de la production scientifique. Ce ne sont pas les institutions qui produisent de la science. La production de la science, c'est des individus, c'est des petites équipes, et ça l'est et ça le restera. Par contre, la durée des institutions, la capacité à se renouveler, à attirer des talents, à attirer des moyens, ça, c'est la charge de l'institution. Et donc, il y a cette nécessité de passer à une échelle collective et de construire des formes d'institutions pertinentes. Je terminerai en évoquant les difficultés de ce processus d'apprentissage, parce que on en arrive ici au paradoxe de cette réforme. Il part de la loi, deux lois, la loi recherche, la LRU, alors que sa réussite suppose un processus incrémental dont la réussite dépend de l'appropriation par des acteurs qu'il met en œuvre, et puis suppose un apprentissage décentralisé qui s'appuie sur des bilans, des retours d'expérience, une capacité d'amélioration continue. Et nous sommes ici, je crois qu'on le voit bien dans les jours présents, au cœur des difficultés inhérentes à toute loi de décentralisation, parce que la LRU est bien une loi de décentralisation. Difficulté en amont, celle de la réorganisation des administrations centrales, de leur capacité à expliciter les règles du jeu, les missions attendues, les allocations, et à ne pas se mêler de tout, mais à donner du sens. Difficulté au cœur du processus de la capacité des acteurs décentralisés de s'emparer de ces missions et de construire ensemble leur institution et l'amélioration de leur performance et donc la conduite avec eux de la contractualisation entre le ministère, de plus en plus les régions et les établissements, pour permettre de façon compréhensive et pas simplement automatique, sinon il n'y aurait besoin que d'un logiciel, une allocation et une évolution des moyens et des missions. Et puis, en aval, la nécessité d'une transparence, d'une pertinence, d'une qualité des évaluations qui est en train de se mettre en place. Et je suis frappé de voir comment, d'année en année, l'ARS tire profit des critiques qui lui sont faites, améliore ses procédures, les fait évoluer. Donc, même là où on avait le sentiment que c'était l'horreur, on voit que l'année d'après, ça a été corrigé. Le mouvement actuel traduit bien ces difficultés. Le fait que, à côté de l'action de l'État, des conseils, des universités, des présidents, eh bien, la réussite passe par l'appropriation, par ceux qu'ils mettent en œuvre, et l'appropriation ne se décrète pas. C'est donc une forme de difficulté qu'on peut qualifier de conjoncturelle. Mais conjoncturel ne veut pas dire fugace. Au bout de 27 ans, par exemple, de décentralisation de la formation professionnelle qui a été attribuée en pleine compétence aux régions dès 82, il a fallu les réattribuer en 94. On a recommencé en 2004 parce que ne s'était pas constitué et commence seulement à peine à se constituer une capacité d'expertise et de conduite au niveau des régions. J'espère qu'on ne mettra pas 27 ans dans les universités. Mais surtout, ce qui a été frappant entre le moment de la LRU 2007 et la situation actuelle, c'est qu'a été décentralisée sur les présidents d'université la responsabilité de la réussite, et le ministère a complètement gardé la responsabilité de l'élaboration des règles locales. Et donc, quand un président, par exemple, a dit, eh bien, en fonction de notre stratégie, il va falloir qu'on discute entre nous de comment on va répartir les services. Chacun est allé au ministère en disant, mais il faut un cadre national, absolument. Le ministère a à chaque fois répondu, rassurez-vous, nous ne laisserons pas agir ces fous de présidents, nous ferons un décret. Et donc, pendant 2 ans, chacun est resté complètement enfermé dans sa discipline, dans son réseau, dans ses antennes nationales, mais avec ceux qui lui ressemblaient de façon complètement identique, en musclant, en durcissant ses identités catégorielles et en évitant donc complètement de se confronter aux autres, d'être amené à discuter avec les autres, de discuter de la façon dont leurs propositions étaient ou pas un apport au projet et à l'établissement. On pourrait dire que un certain nombre de blocs comme ça s'étaient constitués, puis qu'il a suffi, notamment d'un discours malheureux et perçu comme méprisant du président de la République, pour que ces blocs s'agrègent. Et puis, tout à coup, là où la ministre inlassablement passait les écueils et discutait, tout le monde se retrouve face à un mur. D'une certaine manière, on peut dire que trop d'acteurs ont été invités ces 2 dernières années à garder le nez en l'air et les redescentes sur Terre aujourd'hui sont toujours un moment douloureux. D'autant plus douloureux qu'est faible l'identité et une culture d'établissement et forte ses traditions facultaires. Un dernier mot pour dire que ces résistances, celles que nous constatons aujourd'hui, bien loin d'être une alerte sur la nécessité d'arrêter le processus, sont au contraire, me semble-t-il, une illustration de ce qui en était la nécessité. C'est-à-dire le constat que dans les évolutions que nous avons à faire par rapport à la population du pays, par rapport à son développement économique et social, l'implication de tous est nécessaire à la réussite de ces missions. Et que cette implication, elle ne s'obtient pas par des incitations nationales. Elle nécessite ce débat collégial de proximité entre pairs. Qu'elle nécessite le retour à une responsabilité collective partagée et que cela ne s'obtient qu'en accroissant la liberté que chacun peut y avoir. Liberté, responsabilité, voilà exactement la définition même de la LRU. Ces difficultés sont importantes car on voit combien elles touchent à l'identitaire au plus profond de chacun. C'est un moment difficile, mais dont on peut espérer qu'elles stimuleront en contrepoint ce besoin d'une confrontation entre disciplines, entre enseignement et recherche au sein même des établissements et que nous sommes bien à un moment de recréation de vraies universités. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication prononcée par Yves Lichtenberger devant l'Académie des sciences morales et politiques lors de la séance du lundi 6 avril 2009. D'autres retransmissions sont disponibles sur le site de Canal Académie, canalacademie.com, dans les émissions En séance. Vous pouvez aussi lire les textes de ces communications sur le site de l'Académie asmp.fr.